Chapitre 7. Nous vîmes le flamboiement des flammes et entendîmes les coups de feu alors que nous étions à encore presque 2 kilomètres du camp 2. « Bon Dieu !» dit le diacre. Il redoutait, je le savais, que Reggie et JC soient arrivés juste à temps pour être pris dans un carnage. Les détonations qui résonnaient dans la longue vallée glaciaire me parurent étrangement anodines, comme les derniers grains de maïs éclatant au hasard dans une poêle. Puis soudain, le volume augmenta. Au milieu des tirs de pistolet retentit un bruit semblable à la déchirure d'une longue bande de tissu épais. « Qu'est-ce que ?» murmurai-je. Le diacre leva un doigt, m'intimant le silence, et nous tendîmes l'oreille. Aucun de nous ne prenait d'oxygène, et nous étions pantelants après avoir avancé si vite à 6400 mètres d'altitude. Le bruit de déchirure se fit de nouveau entendre. « Ça pourrait être un pistolet mitrailleur Bergmann-Schmeisser, » dit enfin le diacre. « Prions pour que ça ne soit pas le cas. »« Ça tire à quelle vitesse ?» demandai-je, même si je ne voulais pas vraiment savoir. « 450 coups par minute, » répondit le diacre. « Et encore, le rythme est limité par le temps qu'il faut au tireur pour fixer un nouveau chargeur escargot de 32 cartouches. » À cause de ce gros chargeur, le Schmeisser MP18-1 est mal commode et imprécis. Mais qu'importe la précision avec une telle vitesse de feu. Il suffit d'arroser. Les Allemands adoraient leur foutu Schmeisser pour le combat rapproché dans les tranchées. « Oh ciel !» dis-je dans un souffle. « Dépêchons-nous !» lança Passang avant de repartir au trot, ses crampons étincelants dans le faisceau de nos lampes frontales orientées vers le bas. « Il ne joue même plus au Yeti !» haleta le diacre en courant à côté du Sherpa. Nous portions encore plus de 13 kilos de matériel dans nos sacs à dos. « Non, il n'y a plus que des assassins !» acquiesça Passang. J'accélérai l'allure pour ne pas me faire distancer. Mais la sensation d'avoir quelque chose coincé dans la gorge revint, m'obligeant par moments à m'arrêter et à me plier en deux, les mains sur les cuisses, pour tousser jusqu'à en avoir des hauts le cœur. Puis je m'élançai encore plus vite pour rattraper les autres. Aucun d'eux ne m'attendait dans le noir. Les flammes illuminaient la vallée entière, dont la face du Changtse et le mur de glace menant au col nord. Nous étions à moins de 200 mètres du camp 3 quand deux formes sombres se dressèrent soudain devant nous, comme pour nous bloquer le passage. Ma main se leva et je faillis tirer, avec mon mini-pistolet Very, sur la silhouette la plus proche, quand le diacre s'écria « Non !» et abaissa mon bras. C'était Reggie, suivi de près par Jean-Claude. « Par ici ?» dit JC à voix basse, et nous le suivîmes à l'écart de la piste marquée d'empreintes. Il nous conduisit vers le nord, le long d'une rangée de pinacles et de séracs. Au bout de quelques minutes, je compris qu'il avait choisi cet itinéraire parce que la couche de glace était si épaisse ici que nous ne laissions pas de traces.
« Il faut aller tout de suite au camp 3 !»
chuchota le diacre, avec une urgence douloureuse dans la voix. La fusillade s'était arrêtée quelques minutes plus tôt. Le diacre tenait le Luger 9 mm de Bachner dans sa main et non pas son pistolet Very. JC et Reggie nous firent longer les pénitents et les séracs pendant environ 200 mètres vers le nord, puis traverser ce labyrinthe vers l'est, jusqu'à un endroit d'où l'on surplombait le camp 3. Ceux qui avaient des jumelles dans leur sac les sortirent.
« Oh, bon sang !»
murmura le diacre. Toutes les tentes du camp 3 étaient en feu. Les corps des Sherpas étaient disséminés partout. Nous en comptâmes au moins 9 révélés par la lumière des flammes. Les piles de caisses et les tas de provisions qui n'avaient pas été incendiés avaient été réduits en miettes à coups de hache. Il n'y avait aucun faux Yeti en vue, mais chaque fois que la brume s'élevait suffisamment, je distinguais des empreintes de pas ensanglantées partant vers la forêt de pénitents au sud du camp. Nous nous baissâmes tous les 5 derrière l'arête de glace et nous regardâmes.
« Nous sommes arrivés trop tard pour les aider, » expliqua J.C. à voix basse. « Et sacrebleu, c'est ma faute !»«
Que s'est-il passé ?» demanda le diacre. Jean-Claude émit un son étouffé qui aurait pu être un sanglot ou un soupir.
« Je suis tombé dans une foutue crevasse. Moi, le grand expert de Chamonix. »«
Vous aviez des lampes ?» demandai-je.
« Non, »
répondit JC abattu.
« Vous étiez encordé ?
Non.
Il prit une longue inspiration haletante.
Je marchais devant, en essayant de rester sûr ou à côté de la piste. Soudain, la neige a cédé et je suis tombé d'environ 6 mètres dans le glacier. Mon piolet s'est coincé là où la crevasse rétrécissait et je me suis retrouvé pendu aux manches. Et puis j'ai commencé à escalader grâce à mes crampons et Richie m'a lancé une corde. Elle tirait et je me hissais. Il m'a fallu au moins un quart d'heure pour me sortir de là. Et j'ai failli perdre mon sac à dos dans l'abîme. Je suis tombé dans une crevasse comme un bleu.
« Vous n'avez rien à vous reprocher, Jean-Claude, » murmura le diacre. « Il fait trop noir ce soir, et nous sommes tous épuisés. Aucun de nous n'a dormi plus d'une heure ou deux la nuit du lundi au camp 5. Et nous n'avons pas arrêté depuis. Nous sommes montés à plus de 8200 mètres dimanche et lundi. Avons passé trop de nuits en haute altitude, sans avoir assez d'eau pour nous hydrater. » Nous avons descendu plus de 3000 mètres en un jour. Et ce soir, nous avons de nouveau gravi 1500 mètres. C'est un miracle que nous soyons encore en état de fonctionner.
Les Sherpas,
commença Jean-Claude avant de s'interrompre. Il sanglotait. Il n'avait aucune chance de s'en sortir, dit le diacre. Et c'est ma faute, pas la vôtre. En tant que chef de l'escalade dans cette expédition, je suis responsable de la sécurité de tous. Il se peut que tous les Sherpas soient morts. Et c'est ma faute. J'assurerai le commandement.
Nous avons vu 9 corps,
murmura Reggie.
Il aurait dû y avoir 13 Sherpas au camp 3, en comptant les 5 qui nous ont accompagnés au camp 2. Et Nawang Bura était avec nous avant de disparaître. Nous pouvons au moins espérer qu'il a réussi à quitter la vallée sain et sauf.
Avec son couteau de boucher face à des pistolets mitrailleurs Bergmannschmeisser et des pistolets semi-automatiques Luger, dit le diacre d'un ton amer. Il gratta la barbe naissante sur sa joue. Comment sont morts les 2 porteurs qui avaient presque réussi à fuir le camp de base? Demanda Passang.
« Par un tir de carabine longue portée, » murmura le diacre.
« Une de celles qu'on nous a volées, à mon avis. Lady Bromley-Montfort et moi avons apporté des carabines à verrou Mannlicher-Schönauer de 1920 pour la chasse.
Et vous, monsieur Deacon,
vous aviez une Lee Enfield modifiée, c'est ça ?»«
Oui.
Équipée d'une lunette de visée de la Periscopic Prism Company. La lunette est décalée d'environ 7 cm à gauche à cause du verrou. On vise avec l'œil droit, mais on peut passer à l'œil gauche durant l'action si nécessaire. Je l'utilisais sur le front. Elle n'a pas l'air pratique, elle ne l'était pas. Mais elle fonctionnait bien.
Vous avez eu le droit de la conserver après la guerre,
demandai-je.
C'était illégal, mais je l'ai fait.
J'avais acheté la lunette moi-même. Mais Richard... Jean-Claude s'interrompit une seconde.
Vous étiez officier, non?
Mais votre seule arme n'était-elle pas le revolver Webley que vous avez prêté à Sam Chubby ce soir?
Oui et non,
répondit le diacre d'un ton pesant, comme un catholique confessant un très noir secret.
J'étais officier.
Mais je me suis porté volontaire pour recevoir une formation de tireur d'élite. Je suis devenu très bon pendant les semaines passées dans les tranchées entre les attaques. Je ne savais pas comment réagir à cette révélation. D'après ce que j'avais entendu dire après la guerre, les 2 camps détestaient les tireurs d'élite sur le champ de bataille, même les leurs.
Un tireur d'élite bouddhiste,
commenta Reggie, rompant enfin le silence.
Quoi qu'il en soit, nous allons devoir récupérer l'un de ces fusils pour que vous puissiez l'utiliser.
Nous avions l'intention d'essayer, dit Jean-Claude. Reggie a suggéré que nous tendions une embuscade à ces yétis allemands, ici, au milieu des séracs, quand ils reviendraient dans cette partie du glacier.
Son idée était bonne. Tirer les fusées de détresse sur ceux qui portaient nos fusils ou le pistolet mitrailleur Schmeisser. Profiter de l'obscurité et de la confusion pour récupérer les armes. Puis battre en retraite dans le labyrinthe de glace.
Il vous aurait tué tous les deux, dit le diacre.
Jean-Claude haussa les épaules.
Nous avons besoin d'armes, mon ami. Avez-vous mis la main sur le pistolet du Yeti mort ?
Le diacre montra le Luger.
De cartouches. Aucune dans la culasse.
Barner n'était pas un soldat.
C'était Barner ? Demanda J.C. L'homme qui se trouvait avec Siegel à Munich quand vous êtes allé là-bas ? Qui est Barner ?
Demanda Reggie. Je lui murmurai une explication, puis le diacre nous interrompit.
« Avez-vous vu les Allemands pendant l'attaque du camp 3 ? Combien étaient-ils ? Y a-t-il une chance pour que certains de nos Sherpas en soient sortis ?»«
Nous avons vu au moins 8 Allemands dans leur veste à poil, » répondit Reggie. « Ils ont retiré les masques après avoir massacré tous nos hommes. Et ils les ont jetés dans les flammes, avec les déguisements de Yeti, après avoir mis le feu aux tentes et à nos affaires. » Je crois que quelques-uns des nôtres, blessés, se sont traînés dans la forêt de Sérac, dit J.C. Les empreintes de pas montrent que les Allemands ont dû suivre les traces de sang. Pour les achever.
J'espérais que certaines traces de sang appartenaient aux Allemands, dis-je. Semchumbi avait le revolver du diacre. Je ne sais plus combien il contenait de cartouches.
Seulement 6, répondit le diacre. C'est un revolver à double détente, mais doté d'un extracteur automatique. Quand on en maîtrise le maniement, et qu'on dispose de cartouches supplémentaires, on peut tirer 20 ou 30 coups par minute.
Semchumbi en maîtrisait-il le maniement ?
Demanda J.C. Non.
Disposait-il de cartouches supplémentaires ?
Non.
Bon. J'espère tout de même qu'il a tué quelques-uns de ces salopards. « Dis-je. »«
Amen, » murmura J.C.
Par moments, l'un de nous se redressait et regardait par-dessus l'arête avec les jumelles, mais le terrible spectacle demeurait le même, sauf les feux qui commençaient à s'éteindre. Les Allemands n'étaient pas revenus. Aucun des corps dans la neige n'avait bougé.
« Il faut y aller, » déclara Reggie.
Sa voix était plus ferme que n'eût pu l'être la mienne.
« Pourquoi ? »
demandai-je.
« Pourquoi prendre ce risque ?»«
Nous avons besoin de nourriture, d'essence, d'un réchaud Primus ou Una, de tablettes de méta à brûler, de sacs de couchage, de vêtements de rechange et de toutes choses utiles que les Allemands n'auront pas détruites.
On ferait mieux de de quitter le glacier sans tarder, » dis-je. C'est trop risqué de s'approcher des flammes.
Les Allemands attendent peut-être qu'on le fasse. Ils nous attendent.
Probablement, admit le diacre. Mais Reggie a raison. On doit récupérer tout ce qu'on peut au camp 3. Nous avons besoin de vivres, de carburant et de réchaud, si nous voulons survivre.
Pourquoi resterait-il quoi que ce soit là-bas? Il n'y avait plus rien dans les autres camps.
J'entendis le désespoir et la pointe de panique dans ma propre voix.
N'oubliez pas que nous avons une cache au camp 3, à environ 45 mètres à l'ouest, là où les blocs de roche sont dentelés à la base du Changtse. La neige tombée aujourd'hui a dû recouvrir la bâche. Les Allemands ne l'ont peut-être pas vue. Ils ont attaqué après la nuit tombée.
Avant d'essayer de sauver quoi que ce soit, nous devrions décider de ce que nous ferons ensuite,
déclara Jean-Claude.
Où allons-nous? Quel est le plan?
Il n'y a rien à discuter, dis-je.
L'expédition est terminée.
La seule question qui se pose est la suivante.
Est-ce qu'on part par l'ouest et qu'on escalade l'arête du Changtse pour rejoindre le Népal par le col de Lola? Ou est-ce qu'on passe par l'est en franchissant l'arête nord-est? Non, ça ne marchera pas. Enfin, en trouvant un moyen de quitter la vallée et de franchir le Windy Pass, le lac Pala, puis le col du Karpola pour redescendre au Tibet. D'après moi, la première option est la meilleure.
Nous discuterons de tout ça après avoir fouillé le camp,
déclara le diacre avec sa voix de commandement. Il y a des éléments à prendre en compte que vous ignorez encore, Jake. Et vous aussi, Jean-Claude. Mais d'abord, on doit trouver un réchaud et du combustible et récupérer tout ce dont on pourra avoir besoin. Une fois en bas, nous chercherons aussi des survivants.
Sherpa ou Allemand ? Demandai-je.
Les deux, répondit le diacre. Mais je donnerai mon testicule gauche pour faire prisonnier un de ces Allemands.
Et je donnerai votre testicule droit pour ce même résultat, dit Reggie.
Malgré notre position précaire près de la piste du glacier menant au camp 2, nous éclatâmes de rire tous les cinq. Puis le diacre demanda « Qui veut descendre avec moi dans le camp ?»«
Je vous accompagne, » répondit aussitôt J.C.
« Je vais rester ici avec Lady Bromley-Montfort, » dit le docteur Passang.
J'eus la surprise de m'entendre dire
« Je descends avec vous deux. »